Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin au micro de France Culture dans Chrétiens d'Orient, ce sont deux invités que nous recevons pour évoquer l'actualité des chrétiens orientaux. Antoine Fleifel, jeune philosophe et théologien, habitué de notre rendez-vous dominical. Bonjour Antoine.
Bonjour Sébastien.
Et je reçois pour la première fois Tigrane Yegavian, journaliste indépendant, diplômé d'arabe, langue que vous avez apprise au Yémen, à Beyrouth, ou encore plus récemment à Paris, à l'INALCO, au cours d'un master. Avant cela, vous aviez grandi au Portugal, séjourné longuement en Syrie, en Turquie pour de nombreux terrains, avant de vous immerger à Paris pour un diplôme de sciences politiques, ou peut-être même était-ce contemporain, avec Gilles Kepel. Et vous vous intéressez de près au phénomène diasporique, à la géopolitique des diasporas chrétiennes issues de l'Orient arabe. Vous nous en direz un petit peu plus au cours de cette émission, parce que ce qui nous rassemble tous les trois ce matin, c'est un essai remarqué dont vous êtes l'auteur, Tigrane Yegavian, « Minorité d'Orient, les oubliés de l'histoire », sorti récemment aux éditions du Rocher. Alors bonjour à tous deux, je voudrais commencer par une citation d'Amin Malouf à propos des chrétiens assyro-chaldéens, mais qui, je pense, peut s'étendre à toutes les autres communautés. « Déracinés, hier même, sous nos yeux, et dans l'indifférence larmoyante qui caractérise ce siècle. » Que vous inspirent ces propos, Tigrane ?
Bah, il m'inspire surtout qu'il y a une vraie répétition dans cette séquence, dans ce récit. Quand on évoque le sort des minorités opprimées chrétiennes et yézidis d'Orient, il est vrai qu'on le fait très souvent, voire pratiquement toujours, sous l'angle victimaire. Alors, mon propos à moi, c'était pas forcément de m'inscrire dans cette approche, mais de proposer une géopolitique critique. Et le déclic, ça a été 2014. Puisque 2014 est une année quand même assez tragique pour les chrétiens d'Irak, compte tenu des événements dramatiques de l'invasion par l'État islamique de la plaine de Ninive et du génocide, de la tentative de génocide des yézidis. Donc proposer une géopolitique critique dans laquelle l'approche serait plutôt lucide, journalistique, mais aussi de vulgarisation, pour vraiment proposer un vrai débat sur l'avenir de ces chrétiens d'Orient à l'aune de l'histoire, en faisant dialoguer passé et présent.
Alors quel est le sentiment de nécessité qui a motivé votre thèse? Donc c'est un sentiment d'urgence, un sentiment que le livre idéal n'existait peut-être pas encore, pour résumer.
En tout cas pas dans ce format-là. Il y a un livre de référence qui, moi, m'a vraiment nourri quand j'étais étudiant, c'était la Somme historique de Jean-Pierre Valogne, publié en 1994, auquel, et je pense que notre ami Antoine Fleifel sera de mon avis, auquel nous pouvions... En fait, en tant que chrétien aussi, en tout cas d'Orient, issu de ces communautés, souscrire, c'est-à-dire une sorte de Cassandre, une sorte de disparition programmée, en tout cas, qui faisait l'objet de sa conclusion, qui pour beaucoup est difficilement audible ou acceptable. Moi, j'ai encore un souvenir quand il disait ce que doivent faire les chrétiens, enfin ce qui va se passer, c'est que ils vont tous émigrer en Occident, et c'est tant mieux pour l'Occident puisqu'ils vont enrichir l'Occident de leur patrimoine. Or, on voit bien que ce discours de muséification n'est pas forcément dans l'intérêt même des Occidentaux.
Vous refusez cette fatalité d'une certaine manière?
Je veux espérer. Je pense qu'il n'y a plus d'espoir, l'espérance demeure.
Alors comment vous avez structuré votre travail? Vous partez d'un constat, vous offrez une méthodologie en fait, qui est à la fois par chronologie et par région. C'est la Syrie, c'est l'Irak, c'est la Palestine, c'est le Liban, l'Égypte bien entendu avec les Coptes. Comment vous avez trouvé votre propre chemin de pèlerin peut-être au niveau de ces pays et communautés?
Disons que j'avais envie de faire le point de façon très factuelle, documentée, à partir des sources qui m'étaient disponibles, des entretiens que je pouvais faire avec des amis experts notamment, puis le terrain, l'expérience du terrain, faire le point sur le bilan des soulèvements arabes de 2011 et en quoi ces événements, ces chaotiques, ces bouleversements ont affecté la vie des chrétiens dans les pays dont on parle, les pays du Mashrek, c'est-à-dire l'Égypte, la Jordanie, Israël, Palestine, l'Irak et la Syrie pour ne pas les citer. Puis, il y avait l'intention, la volonté de déconstruire deux récits, déconstruire deux idées reçues qui ont la vie dure. Je veux parler de cette tradition sempiternelle, cette tradition que la France, en tout cas qu'une certaine élite politique française se revendique, qui est celle de protectrice ou héritière, protectrice des chrétiens d'Orient. Or, on voit bien à la lumière des textes que cette protection, elle est pour beaucoup, elle repose sur un fondement artificiel. Il y a beaucoup de nuances à apporter en tout cas à ce discours. C'est très inexact. Donc, je voulais absolument montrer en quoi la France n'a pas forcément un rôle très glorieux. Donc, au cours de dernier siècle, notamment début du XXe siècle, dans la gestion du fait minoritaire en Syrie, en Cilicie, au Liban. Puis la deuxième grande idée des constructions qui s'avère être très iconoclaste et qui passera pas forcément, qui est un petit peu, on va dire, politiquement incorrecte, c'est la relation pour le moins ambiguë et ambivalente entre les Kurdes et les chrétiens au nord-est, dans le nord-est de la Syrie, dans le nord de l'Irak. On est habitué depuis l'affaire de la bataille de Kobané à un discours romantique, un discours qui galvanise l'héroïsme kurde, qui est un héroïsme tout à fait véridique, mais on oublie de parler aussi de ce qui se passe sur le terrain, de la cohabitation difficile entre Kurdes et chrétiens, cette politique de cooptation d'une part et de coercition de l'autre, en tout cas jamais sur le même pied d'égalité entre ces composantes de la Mésopotamie du nord-est syrien.
Alors vous parliez on parlait de terrain pour ce travail dans cette petite introduction. Vous avez été en Turquie plusieurs fois, mais vous avez été en Syrie aussi, c'est-à-dire que vous connaissez ces régions, et je pense à ces régions du nord-est syrien, ce sont des terrains que vous avez parcourus vous-même. Quelles sont ces impressions qui vous restent après toutes ces années? Vous n'y êtes pas retourné depuis là?
Il se trouve que moi j'ai une attache avec la Syrie qui est très romantique, puisque mon père est né à Alep en 1943. Donc sous le mandat français, il est né dans cet hôtel qui existe encore, qui tient debout, qui s'appelle l'hôtel Baronne, qui est un palace majestueux qui est maintenant pratiquement pas en ruine, mais qui se porte pas forcément en très bon état. Et donc j'ai été nourri par ce père de tous ces récits, on va dire, Laurence d'Arabie, Agatha Christie, de cet Orient en fait qui n'existe plus que dans les livres d'histoire. Et je suis revenu enfant, je me suis rendu à peu près 15 fois quand j'étais adolescent, j'ai séjourné longuement à Damas, ce qui m'a permis aussi d'avoir un autre regard, parce que quand vous allez à Alep, vous êtes d'origine arménienne, comme c'est mon cas, vous êtes un petit peu coincé dans le ghetto chrétien, et vous ne sortez pas de ce ghetto. Donc à Alep, j'ai eu conscience que l'Empire ottoman n'était pas vraiment mort, dans la mesure où perdurait dans ces villes, dans cette ville d'Alep, le millet. Le système du millet, c'est-à-dire ce système de ghetto autogéré, auto-administré, où les communautés chrétiennes, ou en tout cas les communautés non-musulmanes sunnites, évoluaient en autarcie. Et que cette question de cette citoyenneté était très peu développée, en fait, dans l'imaginaire collectif de ces minorités. Or, à Damas, j'étais en contact avec une société plus ouverte, plus peut-être occidentalisée, mais en tout cas, où on pouvait vraiment naviguer d'une communauté à l'autre sans barrière. Sans complexe, j'allais le dire.
Antoine Fleffel, je me tourne vers vous maintenant. Qu'avez-vous pensé du livre et de la démarche de Tigrane ?
Je voudrais rebondir sur quelque chose qu'il vient de mentionner, c'est-à-dire la géopolitique critique. La géopolitique critique est surtout nécessaire, et c'est un philosophe qui parle de la critique, car il y a beaucoup de représentations qui ont été créées autour des chrétiens d'Orient, que ce soit en Occident ou que ce soit en Orient, au 19e, au 20e, au 21e. Et ces représentations et ces constructions frôle tantôt l'idéologie, tantôt le discours sentimental, tantôt la propagande, tantôt le populisme. Et aujourd'hui, faire une géopolitique devrait être nécessairement critique dans cette région du monde. Et merci beaucoup pour la citation d'Amin Maalouf, parce que la question du déracinement trouve sa place dans cette géopolitique critique, et elle est multiple, cette question de déracinement. Parce qu'il n'est pas seulement question de parler d'un déracinement de ces chrétiens qui viennent en Occident, comme le disait Vallone, pour l'enrichir et créer un Moyen-Orient stabilisé et homogène. Le déracinement, il est aussi en Orient. C'est-à-dire que nombre de communautés, vous en parliez tout à l'heure, les Arméniens, les Chaldéens, les Assyriens, ont dû être déracinés de leur lieu d'origine. Peut-être qu'il est difficile pour un occidental de le concevoir, mais un chrétien syriaque ou chaldéen qui est au Liban ou en Syrie, a la nostalgie de la terre de ses ancêtres et peut même se sentir déraciné en Orient, au Liban. Pourtant, on a cette vision en Occident en se disant « oui, les chrétiens d'Orient, ils sont en Orient et c'est tout ». Non, non, la question est beaucoup plus complexe, et la nécessité de cet élément critique permet d'avoir une lecture plus lucide de la chose, afin de faire comme Tigrane le disait, en utilisant un terme qui est très cher à la philosophie du XXe siècle, celle de la déconstruction. Donc il faut déconstruire. Et même les notions les plus élémentaires qui sont évoquées aujourd'hui, comme par exemple la protection des minorités. Et j'étais fort aise de lire ça dans ton livre Tigrane, qui a été l'occasion de la création de beaucoup de mythes remontant à Saint-Louis, qui protégeait déjà les Maronites. Il est nécessaire aujourd'hui de déconstruire tout cela, déconstruire l'image d'un Orient chrétien qui a absolument besoin de protection, démonter l'image d'un musulman qui est absolument violent et qui veut exterminer tous les chrétiens, démonter plein d'images afin de pouvoir créer ou s'imaginer créer ce monde citoyen dont on rêve.
J'ai l'impression qu'il y a un point qui vous rassemble, outre ce nécessaire principe de déconstruction, c'est celui de cette approche trop souvent victimaire qui marginalise d'une façon étonnante à la fois du côté émotionnel, qui infantilise peut-être d'une certaine manière et qui apporte un degré de condescendance peut-être dont on n'a pas besoin pour aller au-delà. Qu'est-ce que vous en pensez, Tigrane?
Je pense surtout qu'il faut vraiment proposer un examen critique à la lueur de nos connaissances, de nos vécus, de notre analyse, de notre esprit critique, puisqu'on a la chance quand même d'évoluer dans des sphères parallèles, Antoine Fleffel et moi. Nous sommes porteurs d'une double culture, d'un double héritage, et nous vivons sans complexe avec ça, au contraire. Donc l'idée était déjà de montrer que ce n'est pas dans notre intérêt de faire ce qu'on appelle la repentance, de demander à la France des comptes sur son bilan colonial, impérialiste. Ce n'est pas dans notre intérêt. Tenant compte aussi du fait que si l'instrumentalisation du fait minoritaire, il y a, et je reprends cette expression de notre ami le professeur Georges Korm, qui parle de l'instrumentalisation des minorités d'Orient au XIXe siècle comme une machine de guerre géopolitique, certes. Mais cette instrumentalisation peut se faire aussi dans l'autre sens. On le voit aussi à l'époque médiévale, au XVIIIe siècle plutôt, plus exactement, quand des maronites libanais vont aussi mettre en valeur, mettre l'accent sur les persécutions dont ils font l'objet, dont ils souffrent pour obtenir certaines dividendes. Donc ça, c'est un point. Le deuxième point, et là, on touche vraiment un point très sensible, et vraiment, je tiens absolument à ce qu'on l'aborde dans cette émission, c'est la co-responsabilité. C'est la responsabilité de certaines élites chrétiennes dans leur propre malheur. Je veux dire par là que, en l'absence de sens politique, de conscience de ce qu'est l'État, parce que ces communautés n'ont jamais vécu dans des États propres, il n'y a pas d'État de nation. Et lorsqu'on voit le génocide des Arméniens, des Assyro-Chaldéens, des Grecs pontiques de 1915, on s'étonne que les élites chrétiennes, notamment arméniennes, ottomanes, qui étaient des élites parfaitement intégrées dans les structures de l'État ottoman et qui étaient complètement habitées par les Lumières, par l'influence française positiviste, par l'idéal d'égalité franc-maçonnerie, enfin, dont elles faisaient partie, certaines, je suis étonné par leur naïveté. Leur naïveté n'a jamais fait l'objet de la moindre autocritique de la part des descendants, des rescapés du génocide. Et c'est là un point sensible, parce que on s'intéresse pas beaucoup, en fait, à l'historiographie arménienne critique sur cette période tragique et vraiment cette matrice, en fait, de la diaspora, qui est le génocide. Beaucoup de textes sont pas forcément mis en valeur. Or, moi, j'ai voulu faire dans cet essai un vrai travail aussi pour valoriser certaines figures qui ont écrit sur cette période, qui sont morts dans l'indigence, et qui ont un regard d'une lucidité rare. Et c'est important aussi d'avoir ça en tête. On peut aussi parler du contexte plus récent de la fin de la guerre civile libanaise et de la responsabilité accablante de certaines élites miliciennes chrétiennes dans la fin des combats où le camp chrétien s'entre-déchirait, et tout cela a eu des conséquences funestes sur l'exode de beaucoup de chrétiens du Liban.
Antoine Fleffel, sur ce point de co-responsabilité.
Je confirme qu'une lecture critique de la mémoire n'a pas été effectuée. Tigrane parle des Arméniens, je pourrais parler des Maronites. Nous sommes toujours en train de nous déchirer sur les mêmes questions qui nous ont déchirés durant la guerre civile et même avant. Il faut dire que cet élément d'une lecture critique, de la lecture de la mémoire, de penser les blessures et de regarder l'avenir, est un élément qui est très absent. Donc lorsqu'on regarde les chrétiens d'Orient, il faut être conscient que nous sommes face à une grande diversité qui vit des situations particulièrement différentes et qui ont une certaine crise. Avant d'avoir une crise avec l'islam politique, avec le sionisme, avec l'instrumentalisation de l'Occident, il y a une crise interne qui fait qu'on est incapable de se renouveler d'une manière constructive et permettant d'ouvrir les horizons très loin. Les chrétiens en Orient sont aussi responsables de ce qu'ils sont en train de vivre. C'est pour cela que lorsqu'on parle de leur protection, peut-être que l'une des protections dont ils ont besoin, c'est la protection d'eux-mêmes, la protection de leurs propres démons, les démons de la naïveté, comme tu le dis, Tigrane, les démons du recroquevillement, les démons de dire, là-bas, il y a un durcissement du discours idéologique, nous allons durcir notre discours idéologique, nous voulons rejeter l'autre, nous voulons faire ce qui nous est propre. Et en faisant cela, les chrétiens d'Orient trahissent leur vocation. Alors, je ne dis pas que tout le monde le fait, mais la vocation, elle est double, à mon sens, ici. Il y a bien sûr des bifurcations. La première vocation, c'est celle de témoigner de l'amour du Christ, qui va dans le sens de la paix. Ils sont appelés à faire ça, et ce n'est pas dans des discours qui ressembleraient à d'autres jugés extrémistes qu'on est capable de le faire. Et secondement, moi je crois que les chrétiens d'Orient ont toujours la vocation d'apporter la modernité dans le monde arabe, même si les musulmans le font bien aussi, et ils ont aussi la responsabilité d'être d'une manière active et originale l'autre dans la société, pour bâtir la société de l'avenir avec le partenaire quel qu'il soit. Ce sont des éléments qui devraient pousser à une réflexion. Tigrane, dans ton livre, tu y évoques beaucoup d'éléments qui sont particulièrement intéressants, comme par exemple le synode du pape Benoît XVI en 2010, le synode pour le Moyen-Orient, comme une tentative de théologie contextuelle, et comme beaucoup d'autres, la Nahda arabe, les Lumières. Cela est nécessaire, mais si ça existe dans des milieux d'élite et dans des cénacles très restreints de spécialistes, aujourd'hui ce n'est toujours pas une réalité. Donc le travail, il est multiple.
Tigrane ?
Oui, enfin, je souscris au propos de notre ami Antoine. Cela étant, ce travail de théologie contextuelle qui a fait l'objet donc de ta thèse, n'est-ce pas ? Le problème, c'est qu'il se heurte donc à une diffusion restreinte, d'où aussi l'importance de tirer profit du réseau scolaire qui existe au jour d'aujourd'hui et qui est soutenu notamment par une ONG comme l'Œuvre d'Orient, dont la plupart des élèves sont des élèves musulmans. Et je pense que la France ne valorise pas assez ce tissu, ce réseau d'écoles qui existe encore au Levant. Donc effectivement, on est vraiment là à un choix vraiment très important, un moment charnière, dans lequel on peut plus se penser comme minorité ou majorité, mais on peut pas encore se penser comme citoyen en l'absence d'état de droit. C'est vraiment un débat qui est difficile à mener donc par le bas, vu la gravité du contexte. Donc je crois qu'il y a une phrase importante, en tout cas moi je suis très sensible à cette phrase de l'écrivain libanais Rachid Daif qui dit « Je veux pas être pensé comme minorité, mais comme nuance ». Et d'où la responsabilité des chrétiens, et aussi, et là en tant que piste de réflexion sur l'avenir, quelle perspective peut-on accorder à ce présent impossible, c'est la diaspora. Puisque la diaspora, on en parle beaucoup comme un accident de l'histoire, comme un naufrage, comme une dispersion. Moi, je la vois plutôt comme une chance, parce que la diaspora évolue, les diasporas commencent tout doucement à prendre conscience d'elle-même. Et ça, c'est un phénomène récent qui ne fait pas encore assez l'objet d'attention des médias ou des recherches académiques, en tout cas dans le cas des chrétiens d'Orient.
Nous sommes ce matin dans Chrétiens d'Orient avec Tigrane Yegavian et Antoine Fleffel pour discuter du livre « Minorité d'Orient, les oubliés de l'histoire » qui est en librairie et qui vient de sortir aux éditions du Rocher. Alors une question pour tous deux, et je me tourne vers vous Antoine Fleffel, de qui ou de quoi êtes-vous l'héritier ?
J'ai plusieurs héritages. Principalement, je suis héritier du contexte d'où je suis né, c'est-à-dire que je suis maronite, de parents maronites, d'ailleurs fier de l'être. Je suis un maronite qui croit qu'il est impossible d'envisager l'avenir sans les autres communautés chrétiennes, mais aussi sans les autres partenaires de vie. Mais je suis aussi héritier d'une tradition francophone, car j'ai été baigné dans mon enfance par cette francophonie. Cette francophonie m'a beaucoup apporté des valeurs, une lecture critique, une vision large du monde. Donc le maronite n'en est pas une, mais c'est une vision qui est aussi différente. Je suis héritier de multiples disciplines qui m'ont façonné, que ce soit la philosophie ou la théologie ou la géopolitique ou l'histoire. Et je suis surtout héritier d'une tradition de rencontre que j'ai connue dans mon enfance, qui n'a cessé de s'enrichir durant ma vie en France et en Europe, à travers toutes mes rencontres. Et tout cela fait de moi la personne que je suis, une personne qui croit que l'autre la complète.
Et vous, Tigrane ?
Bien, moi, je dirais que je suis héritier d'un pays perdu, l'Arménie occidentale, l'Empire ottoman, et j'ai grandi avec des récits Encore une fois, c'est assez romantique. Ma famille paternelle donc venait de Syrie, maternelle d'Égypte. Ils ont appartenu, ils ont évolué dans des sociétés cosmopolites qui se sont rétrécies inexorablement à la faveur de l'État-nation, des conflits. Donc, en Europe, une sorte de greffe a pris corps en moi et j'ai eu la chance donc enfant de me nourrir à la fois de cette éducation rationnelle que j'ai reçue dans un lycée français au Portugal, donc habité par la francophonie et non pas forcément l'appartenance à l'État-nation français, mais la francophonie, une certaine idée gaullienne de la francophonie qui fait tout à fait sens en moi. Et puis la Syrie, bien sûr, en tant que mère de la diaspora. Pourquoi ? Parce que la Syrie n'est pas forcément la patrie des seuls Syriens. La Syrie a un vrai message civilisationnel. Je crois que c'est... J'ai oublié qui avait dit cette phrase, mais j'ai deux patries, la France et la Syrie en tant que civilisation, en tant que berceau des civilisations. Dans le cas arménien diasporique post-ottoman, la Syrie est la matrice de la diaspora. Et encore une fois, il y a eu Alep. Alep est la dernière étape du convoi des déportations en 1915, avant la mort, avant le désert des Azores, mais c'est aussi la Renaissance, la ville de la Renaissance d'une communauté. Et si vous faites attention un petit peu au cadre de la diaspora arménienne au Canada, aux États-Unis, en France, vous noterez qu'une écrasante majorité est née soit à Alep, soit à Beyrouth. Donc c'est pas anodin, je pense qu'ils sont nés dans ces contrées.
Est-ce que vous n'avez pas peur, si on met trop la diaspora en avant, c'est une question d'équilibre peut-être, hein, je me permets cette question, on oublie un petit peu les gens qui habitent toujours dans ces pays?
Alors justement, je pense que on n'a pas suffisamment tiré profit de l'éducation dans le cas de la diaspora, parce que je pense que c'est en diaspora que peut naître une nouvelle élite chrétienne armée du double bagage, hein, le bagage donc du contexte, le contexte des sociétés locales, et puis l'héritage, la transmission de toute cette culture, cette langue, donc l'arabe, le sourète, l'arménien, pour ne pas les citer. On fait face à un vrai défi, c'est le défi donc de la transmission et de la formation d'un nouveau clergé qui puisse servir ses ouailles aussi bien en diaspora que dans les pays d'origine et qu'ils soient armés justement de cette double culture.
Antoine Feffel sur ce point.
En tout cas, la diaspora n'a aucun sens sans les habitants qui sont sur place. Voilà, c'est de là qu'ils tirent leur identité, sinon ils ne sont plus diaspora, ils sont assimilés. Je fais référence à l'une de nos premières émissions, il y a de longues années de là, lorsque j'ai parlé de la théologie contextuelle arabe. Tous ceux qui ont réfléchi la situation de la présence des chrétiens en Orient, les Libanais, qui fait l'objet de ma thèse, ils ont tous étudié en Occident, ils ont fait partie de la diaspora. Et c'est le fait d'avoir pu prendre une distance du contexte en s'enrichissant par la culture qui les a accueillis, qu'ils ont été capables de dire des choses significatives. Donc vive cette rencontre positive et enrichissante des cultures.
Antoine Fleffel, merci beaucoup. Tigran Yegavian, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Minorité d'Orient, les oubliés de l'histoire. Messieurs, je vous dis très sincèrement que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous entendre ce matin et j'espère que voilà, nos auditeurs seront sensibles à la spontanéité et au naturel de votre présentation ce matin. Je remercie Dany Journeau, Olivier Dupré, Claire Poissignon pour la réalisation et la technique de cette émission. Nous retrouvons maintenant le service protestant. Bon dimanche. Thank you.